RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et on inaugure ce matin une toute nouvelle formule dans Je pense donc j'agis du mardi consacrée à l'écologie. Bonjour Anne-Kerléo.
Bonjour Melchior, et oui, désormais, le dernier mardi de chaque mois, nous consacrerons l'émission à l'actualité de l'écologie du mois écoulé avec quatre observateurs ou experts ou personnalités qui s'intéressent en tout cas à ce sujet pour commenter cette actualité.
Et aujourd'hui, ce sont trois sujets qui ont retenu notre attention et que nous allons explorer jusqu'à 10h.
Oui, on parlera pour commencer du franchissement de 5 points de bascule climatique et puis on évoquera une résolution du Parlement européen condamnant 2 projet pétrolier de Total. Et enfin, on parlera de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, un texte qui a été officiellement publié le 14 septembre.
Et dans la seconde partie de l'émission, puisqu'on est encore dans la période de la rentrée, on se demandera comment développer l'éducation à l'écologie pour les jeunes. Exemple à l'appui, ce sera à 10h. Pour participer à cette émission, vous connaissez la formule 04 72 38 20 23. Vous laissez vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Anne, vous nous présentez les quatre intervenants qui viennent ce matin commenter l'actualité écologie du mois.
Oui, Melchior, en commençant par celui que les auditrices et les auditeurs réguliers de Je pense donc j'agis connaissent le mieux, ceux de la matinale aussi maintenant. Bonjour Adrien Loindre.
Bonjour Anne, bonjour Melchior, bonjour à tous.
Vous étiez l'an dernier chroniqueur dans cette émission Je pense donc j'agis et cette année vous êtes éditorialiste de la matinale, c'est un lundi sur deux à 7h55. Alors merci de revenir ce matin dans cette émission que vous connaissez bien. Et puis Justine Guiton-Boussion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Reporter, le quotidien de l'écologie qui publie chaque jour des articles en ligne. L'adresse pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, c'est reporter.net. Et puis à vos côtés, Bastua Swamazoun, bonjour.
Bonjour.
Vous vous définissez comme afro-féministe et militante pour une écologie sociale et populaire. Et puis j'ajoute que vous nous apportez aussi le regard de contrées lointaines et déjà touchées par le dérèglement climatique puisque vous êtes originaire de Mayotte et vous gardez des liens avec votre île. Bonjour enfin à vous, Anne-Sophie Novel.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur, réalisatrice, spécialiste des enjeux environnementaux et de leur traitement médiatique. Votre dernier livre en date, L'enquête sauvage, pourquoi et comment renouer avec le vivant, est paru en mars dernier aux éditions de la Salamandre. Et puis, vous êtes au cœur de l'actualité puisque vous avez été l'une des chevilles ouvrières de la fameuse charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique dont on parlera en dernière partie de cette émission. Merci à tous les quatre d'être avec nous.
Et même dans cette formule consacrée à l'actualité, on ne perd pas nos bonnes habitudes. Et on commence par la chronique Tout est lié, proposée ce matin par Ferris Barkat.
Bonjour Ferris.
Bonjour.
Alors vous avez choisi cette semaine de nous parler des points de bascule qui pour les climatologues désignent des seuils au-delà desquels se déclenchent des phénomènes irréversibles.
Oui, en effet, je vous parle aujourd'hui de cette étude sur les tipping points, c'est-à-dire les points de bascule parus dans Science. Une contribution scientifique majeure, certes, mais surtout effrayante. Le réalisme a rattrapé le pessimisme. Nous ignorons à l'avance toutes les conséquences du réchauffement climatique qui se profile. Par contre, nous savons qu'elles sont, pour la plupart, irréversibles. Et c'est surtout cet élément qui est central dans cette étude. Il y a donc des points de non-retour, des limites qui, à un certain degré de réchauffement, provoquent des phénomènes d'emballement inarrêtables. Ces points de retour sont possiblement déjà franchis. Aujourd'hui, pour la fonte du Groenland et de l'Antarctique de l'Ouest, ce qui signifie une élévation de 6 à 9 mètres du niveau de la mer en quelques siècles avec un bonus réfugié climatique. Mais à 1,5 degré de réchauffement, on passe de possible à probable pour 4 points de bascule parmi les 16 identifiés. Pour ce qui est du permafrost, donc ces sols qui sont censés être gelés en permanence situés principalement en Russie, au Canada, au Groenland et en Alaska, et bien à 1,5 degré de réchauffement, le point de bascule se rapproche dangereusement. Un point où le permafrost lui-même contribuera à se faire fondre, avec donc la libération possible de virus qui va avec, mais surtout la libération du méthane, qui va contribuer à encore plus aggraver le réchauffement climatique et le phénomène d'emballement.
Alors à partir de cette étude, vous nous invitez à une réflexion philosophique.
Eh bien oui, parce que ce qui est fascinant avec cette étude, c'est notre rapport aux limites. Ici, il est question de limiter le réchauffement avant que les conséquences deviennent ingérables. Et forcément, cela pose la question de notre manière d'appréhender ses limites. Bien souvent, pour une civilisation aussi anthropocentrée que la nôtre, nous n'aimons pas les limites. Il y a cette injonction à devoir aller toujours plus haut. L'humain est inarrêtable, d'où notre frilosité à accepter les limites climatiques, qui, soi-disant, restreignent nos libertés. Pourtant, pour la plupart d'entre nous, les lois fondamentales qui nous permettent de vivre en société ne sont pas vues comme des restrictions de liberté. Au contraire, ces lois sont les conditions de possibilité d'expression de notre liberté. C'est dans ce cadre législatif que nous pouvons être libres. Eh bien, il n'y a pas de raison que pour les limites physiques, il en soit autrement. Même si c'est contre-intuitif, on se porterait mieux en percevant ces limites physiques, climatiques, comme le symbole de notre liberté. On ne sera jamais autant libre qu'en ne dépassant pas les 2 tonnes de CO2 par personne et par an, comme le préconise le GIEC pour rester sous les 2 degrés. C'est dans ce cadre, et uniquement dans ce cadre, que peut et que doit s'exprimer notre liberté. À nous d'inventer des nouvelles manières de l'exprimer, mais ne pas respecter ce cadre, ce n'est pas être libre, c'est s'assurer la contrainte. Oui, car en franchissant les points de bascule climatique, on doit faire face, 1, à des conséquences autrement plus contraignantes que le cadre de départ, et 2, des conséquences qui ne dépendent plus de nous. On perd le contrôle, et c'est précisément ça, la plus grande perte de liberté, ne plus pouvoir agir sur ce qui agit sur nous. Pour éviter ça, voyons les limites physiques non pas comme des contraintes, mais comme la véritable et l'unique porte d'entrée vers nos libertés.
Et si on veut chercher parmi les philosophes classiques quelqu'un qui peut nous aider à penser cette question des limites, on peut aller voir du côté de chez Kant.
Oui, tout à fait. Dans l'introduction de la Critique de la raison pure, Kant prend l'image d'une colombe qui s'envole et qui ressent la résistance de l'air. A priori, elle pourrait s'imaginer qu'elle volerait bien mieux encore dans le vide, nous dit Kant. Ici, il montre que ce que la colombe pourrait percevoir comme contraignant, c'est-à-dire l'air, est en fait la condition qui lui permet de prendre son envol. S'imaginer que l'air n'est pas nécessaire, ou pire, que c'est une entrave pour l'oiseau, est un non-sens absolu. À cette occasion, Kant nous rappelle que la liberté absolue est liberticide, que la liberté absolue peut tuer la liberté.
Merci beaucoup Féris Barkat. On vous dit à tout à l'heure pour la seconde partie de Je pense donc j'agis, où vous allez pouvoir témoigner. Ça n'a rien à voir avec cette chronique, mais merci pour Tout est lié. Cette chronique à réentendre sur rcf.fr, et la semaine prochaine c'est Stécie Algrin qui prendra votre place, et toujours de la matière pour cette émission. On
voilà,
ouvrir cette formule un peu spéciale.
Féris nous offre le premier sujet de cette émission avec cet article paru dans la revue Science et toute la réflexion philosophique qu'il nous propose. C'est peut-être à cette question-là plutôt de la philosophie que je vous invite à réagir, quoique chacun peut dire ce qu'il veut. Mais qui veut commencer le tour de table? Peut-être Anne-Sophie Novel, qu'est-ce qui accroche votre oreille dans ce que nous dit Féris ce matin?
C'est une vaste réflexion et je ne m'attendais pas à ce qu'on l'aborde de manière aussi philosophique, donc merci beaucoup. J'ai envie de dire que ça reste compliqué. Aujourd'hui, voilà, a été évoqué les 2 tonnes auxquelles on devrait se contraindre toutes et tous pour rester dans les objectifs de neutralité carbone d'ici à 2050. Sachant qu'un Français est en moyenne à 6 tonnes, quand on rajoute ce qui est impliqué par nos importations, c'est beaucoup plus important. Et il est important aussi de ne pas rester dans une vision juste climato-centrée. Quand on parle de limites, moi j'ai toujours en tête aussi ce schéma des limites planétaires qui a été posé en 2009 par des chercheurs de différentes obédiences à l'international. Cette année, nous avons franchi 2 limites supplémentaires. Donc je ne sais pas si vous savez en quoi ça consiste. Les limites planétaires.
Redites-nous peut-être, ça vaut le coup de
reposer
les choses. Ouais.
Donc c'est un cadre conceptuel qui a été défini en 2009, qui a été précisé ensuite en 2015. Aussi dans la revue Science, donc par une équipe pluridisciplinaire internationale, et qui consiste à segmenter le système Terre en 9 compartiments ou paramètres. Donc c'est le climat, la biodiversité, l'ozone stratosphérique, les cycles biochimiques, l'eau douce, l'acidité de l'océan, l'utilisation des terres ou la concentration d'aérosols dans l'atmosphère, et qui essaye d'établir pour chacun de ces éléments le niveau de perturbation au-dessus duquel le risque de déstabilisation du système Terre demeure faible. Et on sait qu'on a déjà franchi plusieurs de ces limites. Cette année notamment, ils ont rajouté éventuellement une 10e limite qui serait de différencier dans les questions d'eau douce, l'eau bleue de l'eau verte. Donc Voilà, l'eau bleue qui en fait regroupe l'eau de surface des nappes phréatiques des rivières entre voilà et l'eau verte, c'est-à-dire les réserves d'eau douce stockées par les végétaux et les moisissures qui s'évaluent grâce à l'humidité du niveau du sol. Et on a vu en France cette année qu'on était confronté à une grave sécheresse, donc avoir conscience de ces limites, c'est aussi définir ce périmètre qui était évoqué tout à l'heure. Et j'avoue que rapprocher ces notions, on va dire bio-géophysiques, des contraintes qui sont les nôtres aujourd'hui, d'autres aspects plus économiques et sociaux, me paraît être aujourd'hui la grille de lecture vers laquelle on doit en fait se plonger. Il y a notamment une économiste anglaise qui s'appelle Kate Raworth qui a défini cette notion de donuts économiques. Et moi, c'est quelque chose que j'enseigne à tous mes étudiants en école de journalisme en leur disant cette grille de lecture, voilà, doit rester celle avec laquelle vous regardez le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire ces contraintes géobiophysique et ce que l'on doit respecter en termes de plancher social et économique pour voilà, donc on a en fait dans ces limites un périmètre d'action mais qui n'est pas suffisamment pris en compte dans notre façon de regarder le monde ou de faire des choix aujourd'hui en termes sociétaux, politiques ou économiques.
Adrien Loindre, je ne sais pas si vous souhaitez réagir sur cette question des limites de manière technique ou alors plutôt sur la dimension philosophique et cette question de la liberté qu'évoquait Fériz Barkat.
Bah, très très rapidement sur les deux points. Je sens que l'année dernière, dont je pense que j'agis, on en avait déjà parlé sur le franchissement de la cinquième limite. Et je me souviens avoir fait une chronique sur la question, c'était bah, qu'est-ce que ça vous fait ? Bah rien, parce que je le sais déjà, et que ceux qui le savent pas, bah c'est pas ça qui va les faire bouger, et ceux qui le savent, bah ils le savent. Donc, donc moi j'ai une question philosophique autour de ça, c'est bah comment on utilise ces points-là ? J'ai pas absolument pas la réponse. Pour faire avancer les choses. Le premier point et le second point, quand Fériz parlait, je me suis dit mais je suis complètement d'accord avec sa définition de la liberté. Et en même temps, il y a un rapport dans le temps, c'est-à-dire que ben, je m'explique. Si vous avez envie de faire un aller-retour Paris-New York pour le plaisir, parce que vous allez pas bien du tout et que ça va vous faire du bien et que vous imaginez que ça va vous faire du bien. Bah, qui suis-je pour vous en empêcher, et encore plus, par exemple, pour quelqu'un qui irait voir de la famille. J'ai dit New York parce que c'est un petit peu loin, mais ça marche pour beaucoup de choses. Et donc, c'est perçu comme une privation, actuelle de liberté momentanée de ne pas le faire. Et en même temps, Fériz a complètement raison. Donc, il y a un rapport dans le temps et dans l'espace qui serait à travailler philosophiquement, mais c'est très important. Mais parce que si effectivement on considère que l'écologie c'est la privation de liberté, évidemment on ira absolument nulle part. Donc il y a vraiment un travail des écologistes sur la question de la liberté. On pourrait faire une émission dessus d'ailleurs, c'est un sujet d'émission.
Bastia Souamadoun, qu'est-ce que ça vous inspire, cette tension-là entre les limites, la liberté?
Oui, alors moi je suis complètement d'accord, enfin j'ai trouvé ça vraiment intéressant l'approche qu'il a eue, parce que moi non plus je m'attendais pas à une approche aussi philosophique, et c'est vraiment intéressant surtout l'aspect où il montre qu'on pourrait innover justement dans le cadre de ces limites-là. Et ça répond un peu à ce que disait Adrien, comment on peut faire aussi pour ne pas être seulement sous la contrainte et à chaque fois se dire, oui, l'écologie, c'est une contrainte, c'est la privation de mes libertés. Et je trouvais que c'était aussi intéressant, bah, du coup, pour rester un peu sur ce côté philosophique, de répondre avec un autre philosophe, Kant, justement, qui nous demande si on universalisait nos actions, si on universalisait un peu tout ce côté de, oui, je ne veux pas, enfin, je sais pas, me priver de mon voyage Paris-New York, etc., que donnerait le monde. Et je me dis que derrière cette question, derrière cette question de la solidarité, de se penser aussi en tant que le collectif et pas seulement en tant qu'individu et pas seulement en tant que, du coup, personne poussée par des désirs personnels et individuels et égoïstes, on pourrait se dire qu'il y a aussi de la beauté, non pas que dans cette idée d'explorateur, de dépasser les limites, mais aussi dans cette idée de prendre soin d'eux. De prendre soin du collectif, de prendre soin bah, du coup de nous, en fait, et de se dire qu'on peut changer cet imaginaire positivement et pas que sous le fait du renoncement face à la contrainte.
Et c'est aujourd'hui le grand débat, la fameuse expression très pas jolie du tout d'écologie punitive et qui correspond pas à grand chose, mais c'est ce débat-là qu'elle désigne.
Complètement, complètement. Et j'espère, comme le disait Adrien, qu'on va réussir à recréer un imaginaire où justement ça serait avec un désir et une envie d'agir autrement, non pas parce que la nécessité et les limites planétaires nous y poussent, mais parce que justement l'idéal de cette nouvelle manière de vivre nous fait envie et qu'on a juste envie de vivre dans le cadre de ces limites-là.
Bon, c'est nettement plus enthousiasmant en ce début d'année de s'embarquer de cette manière-là sur cette question d'écologie. Justine Guitton-Boussion, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, tout ce qu'on vient d'entendre ?
D'abord, sur les points de bascule et les limites planétaires, c'est quelque chose qui peut paraître loin de nous. Je pense que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui peuvent peut-être être tentées de se dire je vois pas forcément ce que c'est très conceptuel, ça me concerne pas. Quand Ferris parle par exemple de la fonte du pergélisol en Russie ou au Canada, ça peut paraître loin de nous, nous qui habitons en France. C'est la même chose pour la disparition des récifs coralliens dans les tropiques. Mais en fait, comme il l'expliquait aussi, comme ce sont des systèmes qui sont impliqués dans la régulation du climat de la Terre, ça va provoquer des... Si jamais ces points de bascule sont franchis, et ils vont sûrement bientôt l'être, ça va provoquer des changements irréversibles déjà, et ensuite ça va provoquer des changements en cascade et qui vont avoir un impact mondial. Donc même si aujourd'hui ce permafrost qui est en train de fondre, il est en Russie, ça va forcément avoir un impact sur nous en France. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que c'est bien de redire que ça nous concerne, même si ces points sont loin. Et ensuite, la deuxième chose que je retenais aussi de cette étude de Science, c'est que les auteurs de l'étude le disent bien à la fin, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Même s'il y a un risque très important que ces points de bascule soient franchis avant qu'on atteigne 1,5 degré, aujourd'hui on est à 1,1 degré, on peut quand même arrêter la machine. C'est pas trop tard. Et pour ça, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est là qu'on revient à la question de la liberté. Il va falloir en fait qu'il y ait des décisions politiques pour qu'il y ait ces réductions de gaz à effet de serre immédiatement et que ces décisions, que ces réductions ne soient pas subies, que l'État accompagne ces réductions pour qu'il n'y ait personne laissé de côté. Et pour moi, c'est ça la liberté en fait. C'est que il n'y aura pas de liberté dans un monde où le permafrost fond et libère des quantités énormes de méthane, de CO2, du mercure. Enfin, ça, c'est pas vraiment la liberté. La liberté, c'est d'avoir ce nouvel imaginaire, comme on l'expliquait bien, et d'avoir un changement accompagné.
Et voilà pour ce premier sujet. On passe à la suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo.
Et oui, désormais, le dernier mardi du mois, on décrypte l'actualité de l'écologie en passant au crible avec nos invités. Quelques sujets d'actualité du mois écoulé. Et dans cette deuxième partie de cette émission, on évoque une résolution du Parlement européen sur deux projets pétroliers de Total.
Oui, le 15 septembre, le Parlement européen a voté à une très large majorité une résolution d'urgence dénonçant deux méga-projets pétroliers en Ouganda et en Tanzanie, les projets Tilenga et EACOP. Tilenga, c'est le forage de 400 puits de pétrole sous le lac Albert, dans l'ouest de l'Ouganda. 132 de ces puits sont situés sur une zone protégée. Quant au projet EACOP, il s'agit de la construction d'un oléoduc de 1445 km. Vous savez, c'est ce fameux pipeline chauffé pour acheminer depuis l'Ouganda jusqu'en Tanzanie la production du projet Tilenga. Les députés se disent vivement préoccupés, d'une part, par les violations des droits humains provoquées par ces projets. Ils demandent la libération immédiate des défenseurs des droits humains arrêtés de manière arbitraire. Et ils réclament que les personnes expropriées ou privées de l'accès à leurs terres soit indemnisé rapidement, de manière juste et suffisante. Et puis, la résolution du Parlement européen demande aussi l'arrêt des forages dans les zones protégées sensibles et le report des travaux d'ICOP pendant un an, dans le temps d'étudier la faisabilité peut-être d'un tracé alternatif et puis d'envisager d'autres projets reposant sur les énergies renouvelables. Alors, quel peut être, selon vous, l'impact de ces résolutions ? Est-ce qu'on est là dans le symbole ou est-ce que, sachant que les projets sont soutenus par les gouvernements ougandais et tanzanien, ou est-ce qu'il y a un réel impact de cette résolution ? Adrien Louande, vous qui, je le sais, vous mobilisez contre ce projet EACOP.
Ben, ça fait beaucoup de questions. Quand vous dites que les gouvernements sont pour, moi, et oui, c'est ce qu'ils disent, mais est-ce qu'ils le sont vraiment ou est-ce qu'on aura mis bien la pression pour être pour? Il y avait déjà ça. Pour être très concret, hein, quand vous parlez par exemple d'expropriation des personnes, c'est 100 000 paysans et paysannes qui sont expropriés, sachant que en Total va faire ce qu'ils font toujours, ils font du chantage à l'emploi pour nous expliquer qu'il y a quelques milliers d'emplois qui seraient créés, peut-être, espérons, mais déjà si vous expropriez 100 000 personnes, c'est pas possible. Je voulais aussi signaler sur cette idée, parce parce que c'est quand même assez rare pour le signaler, que le Vatican, par la voix du cardinal Josh Trum, a pris position officiellement contre ce projet. Énormément d'évêques aussi ont pris position contre. Moi, la question que j'ai envie qu'on pose beaucoup en ce moment, c'est quid des évêques français? Est-ce qu'on a une prise de position à la fois de Monseigneur Rouget, qui est évêque de Nanterre? Je dis ça parce que Nanterre est sur le siège de l'hôtel est à Nanterre, et qui fait aussi partie du conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Voilà, ça pose question. Il y a le principe de subsidiarité dans l'Église, donc ils font ce qu'ils veulent, mais ça pourrait être très intéressant. Alors c'est positif. Moi, l'idée de dire on va décaler d'un an le projet, on va essayer de trouver des alternatives. Moi, honnêtement, je ne comprends pas comment on peut trouver des alternatives positives. Est-ce qu'on va exproprier 50 000 personnes plutôt que 100 000? Je veux dire, on reste en exproprier 50 000 personnes. Je veux dire, c'est pas. Donc personnellement, je serais plutôt pour l'arrêt total, bien évidemment. Ce qui est quand même intéressant à travers cela, c'est quand même de montrer que la puissance publique, quand elle veut, elle peut, mais on voit qu'on peut quand même faire des choses. On est toujours à dire oui, mais de toute façon, on peut rien faire, la politique, ça sert à rien, nanana. Bah, si la politique, ça servait à rien, ces résolutions du Parlement européen n'auraient pas dû d'être. Donc c'est aussi un encouragement. Le sujet aussi de cette émission, c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on peut trouver de positif dans cette actualité, et quand même de dire que on fait pas n'importe quoi complètement ce qu'on veut. Je trouve que c'est quand même déjà un premier point assez positif.
Justine Guitton-Boussion, pour vous, premier point, premier pas positif aussi, ou symbole simplement?
Oui, je suis d'accord avec Adrien. C'est un premier point positif et ça montre qu'il n'y a pas non plus Total Energy qui peut tout faire dans son coin sans qu'on vienne regarder un petit peu ce qu'ils font. Et j'ai aussi vu que des militants qui s'opposent à ce projet ICOP estimaient que ça restait un signal fort pour les banques, les investisseurs, que ça permettait peut-être que des banques qui auraient eu envie de s'engager mais ne le faisaient pas encore, peut-être qu'aujourd'hui elles se poseraient davantage la question. Donc c'est un premier pas. Comme le disait Adrien, franchement, étudier la faisabilité d'un itinéraire bis, on ne voit pas à quel moment du forage, de l'extraction de pétrole pour ensuite faire un pipeline de quasiment 1500 km, même avec un itinéraire bis, on a du mal à imaginer que ça puisse être moins polluant. Et je pense que tout est lié, et on parlait il y a quelques minutes des points de bascule climatique qui sont sur le point d'être franchis. Et on sait très bien que pour éviter qu'ils soient franchis, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc du coup, là, c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC dans son dernier rapport, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Dans son dernier rapport, il le dit, il faut arrêter en fait ce genre de projet. Il cite pas ICOP nommément, mais il dit on peut pas continuer à avoir des projets à investir dans les énergies fossiles. Et très clairement, ICOP ça va amener par an 34 millions de tonnes de CO2 en plus. Donc, qu'on doive étudier la faisabilité d'un itinéraire bis, ça paraît complètement délirant quand on sait qu'il va y avoir des points de bascule qui vont être franchis. Donc, il faut réduire nos émissions. Donc, il faut arrêter ce genre de projet, tout simplement.
Bastia Swamadou, non?
Oui, alors moi aussi, je pense aussi que c'est un point positif. Après, je voulais juste revenir sur un aspect de ce que disait Adrien tout à l'heure, c'est le fait que le gouvernement du Ouganda, pardon, et de la Tanzanie se dit être positif, du coup, et favorable au maintien de ce projet. Moi, j'ai l'impression que ça nous montre quand même une limite aussi qu'on doit prendre en compte, c'est quand potentiellement on a comme ça soit des populations, je ne pense pas que ce gouvernement représente vraiment l'opinion de toute sa population, mais en tout cas, là, il est décisionnaire qui dit je n'en veux pas, je veux continuer une chose qui est climaticide, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai un peu l'impression que sur ce point-là, même dans notre manière de militer ou de traiter ces infos, il faut aussi qu'on se dise que mais en tout cas que la résistance sociale est un enjeu qu'on doit pouvoir prendre en compte, parce qu'il ne faudrait pas non plus que des personnes se disent « je suis en train de subir un projet qui, à mes yeux, peut me sembler positif », même si c'est après une propagande incroyable qui ferait croire qu'en fait un projet climaticide est positif pour la population. Je me dis « mais comment traiter ça ? Comment ne pas venir à force à se retrouver face à deux blocs qui s'opposent ?» Et je me dis « c'est un enjeu aussi que du coup, en tant que militant et militante, on doit prendre en main rapidement, parce que justement, de tout ce qui s'est passé cet été, où on a commencé à pointer du doigt les super riches, leur mode de vie, et vraiment des personnes qui, dans leur, que ça soit des grosses entreprises comme Total, ou que ça soit des personnes très fortunées aussi, qui détruisent la planète, comment faire pour à la fois aller du bon côté, parce que oui, de fait, ce qu'on doit faire, c'est réduire nos émissions, mais en même temps, ne pas non plus se retrouver avec des blocs qui s'opposent et qui, à terme, pourraient malheureusement être irréconciliables.
Et c'est quelque chose qu'on sent de plus en plus, hein, et chacun l'expérimente, y compris jusque sur le terrain privé, dans sa famille, dans les cercles. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de tensions autour de cette question de l'écologie. Anne-Sophie Novel, sur ces projets et sur la résolution du Parlement européen, et peut-être plus globalement sur cette notion-là de, d'un côté, des grandes entreprises transnationales dont on a l'impression qu'elles peuvent s'affranchir de tout et vivre sur leurs propres décisions sans se soucier de rien, et d'un autre côté, la puissance publique. Quel est votre regard ?
Bah, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il me semble que c'est l'une des premières fois qu'un géant pétrolier est directement visé par une résolution du Parlement. Donc ça, je trouve que, en tant que tel, c'est quelque chose d'assez fort. Alors, il y a eu des débats cet été sur la taxation des super profits, qui a été un peu mise de côté, mais je pense qu'il faut insister là-dessus. Total Energy, de son côté, se défend en expliquant qu'ils prennent des mesures pour limiter leur impact, pour soutenir la conservation de la nature. Ils assurent qu'ils ne tolèrent ni de contribuer à aucune agression, menace physique ou autre. Et qu'en plus, ils vont respecter leur objectif de neutralité carbone. Donc je pense que ces discours-là sont de moins en moins tolérables et que les inégalités de traitement ou de demandes que l'on fait aux individus par rapport à ces industries pétrolières et d'extraction fossile posent de plus en plus problème. Et donc, je pense qu'on n'a pas terminé d'en parler et qu'il y a en fait aujourd'hui des lignes de fracture qui sont en train de se dessiner dans la société. Va falloir suivre un petit peu aussi la manière dont le PDG de Total Énergie, hein, Patrick Pouyanné va défendre ses arguments parce qu'il va devoir les développer de vive voix bientôt, début octobre, devant les députés de la Commission des droits humains du Parlement européen. Et plus tard, ça va être au tribunal judiciaire qu'il devra plaider sa bonne foi, avec un risque cette fois-ci qui n'est plus seulement politique mais pénal, parce qu'il a été accusé par certaines ONG, notamment les Amis de la Terre et d'autres ONG ougandaises, voilà, pour les interpeller sur leur devoir de vigilance. Donc voilà, qui permet de poursuivre les donneurs d'ordre quand ils ont posé des problèmes et des atteintes aux droits humains ou à l'environnement. Donc je pense qu'ici on a des questions fondamentales et des points de rupture qu'il faut garder en tête et qui sont absolument cruciaux au regard des enjeux qui sont face à nous.
Bon, ce qui est un peu frustrant, Melchior, c'est qu'on ouvre des questions pour chacune desquelles il faudrait une heure, mais c'est bien, ça nous donne du grain pour toute l'année.
Ce qui est moins frustrant, c'est qu'il est pile 9h30, ça veut dire qu'on est à l'heure, et dans les temps. On va marquer une petite pause dans Je pense, donc j'agis. Dans un instant, on parlera de, on ouvrira notre troisième sujet, cette fameuse charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. On en parle dans quelques minutes. Allez, on va écouter tout de suite un tout nouveau single de Barbara Pravi sur RCF qui s'appelle 365. On se retrouve juste après.
J'ai changé de maison, j'ai même changé de vie. Mon cœur s'est rempli des vibrations de la scène. Je me suis essoufflée de lumière et de bruit. Et j'ai beaucoup pleuré de joie, pas que de peine. J'ai découvert la peur de ne pas être assez bien. Dans le regard des autres, puis aussi dans le mien. Je me suis sentie seule, parfois j'ai perdu le sens. J'ai chanté la lumière, j'ai chanté le silence. Je ne compte pas les nuits où j'ai parlé. Comme j'ai aimé, comme j'ai ri et comme j'ai été heureuse. Faut 365 jours pour un tour de soleil. Et moi pendant ce temps j'ai fait ce que j'ai pu. Pour le reste j'ai le temps, pour le reste j'apprendrai. 365 jours pour j'espère des années. J'ai appris à me rire des codes et des usages. J'ai perdu des amis, laissé fuir leur visage. J'ai appris l'importance de respecter mes lignes. Je me suis fait confiance et me suis sentie digne. J'ai navigué à vue dans une mer cruelle. J'ai vraiment fait de mon mieux pour me rester fidèle. Oui, j'ai fait des erreurs, pleines de convictions. Mais je préfère le risque à la même chanson. Car moi, tout ce que je le fais de tout mon être. J'ouvre mes bras à l'après. Pour tout ce qui m'attend, je suis prête. Faut 365 jours pour un tour de soleil. Et moi, pendant ce temps, j'ai fait ce que j'ai pu. Pour le reste j'ai le temps, oui, pour le reste j'apprendrai. 365 jours pour j'espère des années. 365 jours pour un tour de soleil. Et moi pendant ce temps j'ai fait ce que j'ai pu. j'apprendrai. 365 jours pour j'espère des années. T'en fais des échecs, des espoirs, des ratés. T'en fais de l'amour à perte à transpirer. T'en fais de la vie, alors j'en veux encore jusqu'à m'en étouffer, jusqu'à m'en étouffer. 365 jours.
L'énergique Barbara Pravi sur RCF 365.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléau.
Et on décrypte ce matin l'actualité de l'écologie en passant au crible avec nos quatre invités. Quelques sujets d'actualité du mois écoulé. Nous sommes avec Adrien Louandre, Justine Guiton-Boussion, Bastua Swamadoun et Anne-Sophie Novel. On en arrive à notre troisième sujet du jour. Anne, cette fameuse charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, officiellement présentée le 14 septembre lors d'une soirée qui a remporté un franc succès.
Et oui, il n'y avait plus de place. Et on a la chance d'avoir sur le plateau l'une des chevilles ouvrières de ce texte, en la personne d'Anne-Sophie Novel. Alors, plutôt que de vous présenter moi-même cette charte, je vais vous laisser faire. Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez nous dire en 3-4 phrases ce qu'est ce texte et pourquoi, de votre point de vue, il fallait le publier ?
Alors, ce texte, en fait, il est l'aboutissement de plusieurs mois de travail mené par un collectif d'une bonne vingtaine de journalistes issus de rédactions spécialisées dans ces questions comme Reporter, Climax, Social Terre, Ouvert, et de rédactions plus installées, plus grandes, de RFI ou France TV ou de journalistes indépendants. Et donc, je crois que c'est issu d'un constat que bien souvent, le traitement médiatique de l'écologie manque de certains rappels ou tombe vite dans des représentations un peu passées. Surtout, il n'existait pas de texte qui donne en fait des principes aiguillant, un traitement adapté aux enjeux du siècle. Donc c'est surtout un texte qui se veut pas moralisateur, mais qui en 13 points donne un certain nombre d'éléments à garder en tête. C'est une boussole pour indiquer aux journalistes, qu'ils soient spécialistes de ces sujets ou spécialistes d'autres thématiques, ou plutôt journalistes, on va dire généralistes, pour leur rappeler que quand on traite l'actualité aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à faire les liens, à avoir une approche assez transversale de ces questions. Et puis surtout, quand on comprend les enjeux, notamment ceux dont on parlait tout à l'heure, on ne peut plus regarder l'économie ou la politique de la même manière, ni la société. Donc il faut absolument avoir une grille de lecture renouvelée. Et donc ce texte invite à détailler un petit peu les éléments qui nous paraissaient essentiels. Et donc c'est vrai que on l'a publié le 14 septembre. Et depuis, on a 1500 signatures individuelles. Donc personnes qui se sont engagées en disant, moi, en termes d'éthique professionnelle, je cautionne ce texte. Et on a également près de 150 rédactions qui ont officiellement, se sont officiellement engagées, ainsi que des écoles de journalisme, des collectifs, des syndicats. Donc tout est présenté sur le site chartejournalismeécologie.fr. Donc vous pouvez aller consulter. On essaie de le tenir à jour et aussi de proposer des ressources pour les professionnels désireux, de se former ou de monter en puissance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on n'est pas les seuls. Hein. Il y a eu un certain nombre d'annonces récemment. Radio France a annoncé son tournant environnemental peu de temps avant la publication de la charte. France TV a fait des annonces hier, et TF1 va en faire ce midi. Donc il y a un contexte qui fait que je crois qu'il y a enfin, j'ai envie de dire enfin, parce que c'est quand même 50 ans qu'on a les premières alertes. Cette prise de conscience que la profession n'avait pas fait son introspection pour bien traiter de ces sujets.
Juste en quelques mots, vous le disiez, quand on sait, on ne peut plus traiter l'économie, la politique de la même manière. Ça veut dire que ce texte, bien entendu, mais ça va mieux en le disant peut-être, ne concerne pas seulement les journalistes spécialisés comme vous qui êtes avec nous ce matin, mais bien toute la profession.
Oui, en fait, c'est pas trop longtemps, on a cantonné ces enjeux liés à voilà. On les a mis dans une rubrique environnement ou planète, alors qu'en fait aujourd'hui on ne peut pas faire abstraction de ces contraintes planétaires dont on parlait tout à l'heure, qui sont déterminantes pour la façon dont on va s'engager sur le long terme quand on pose des mesures politiques, quand on fait des choix d'implantation d'une usine à un endroit particulier. Voilà, on ne peut plus opposer les mêmes arguments de destruction d'emplois sans prendre en compte d'autres éléments de plus long terme. Donc c'est un rapport au temps qui est différent, c'est un rapport à ces contraintes qui est différent. Et en fait, les journalistes n'ont pas tous eu l'occasion de se former. C'est des sujets qui sont compliqués. Les sciences évoluent au quotidien. Jusqu'à il y a encore très peu de temps, les écoles ne proposaient pas de formation en la matière. Et puis, au-delà de la formation des jeunes journalistes, il est important aussi d'aller dans les rédactions, aider les journalistes à se former. C'est un droit, en fait, qu'il faudrait réclamer aujourd'hui, à comprendre ces enjeux, à avoir du temps pour bien les intégrer.
Justine Guiton-Boussion, vous qui travaillez dans un média dédié à l'écologie, ce texte vous paraissait nécessaire? Comment vous le recevez et est-ce que pour vous aussi il va être une boussole?
Oui, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Anne-Sophie. En fait, nous, à Reporter, on est un média indépendant dédié à l'écologie. Mais en fait, l'écologie, ça devrait imprégner tous les sujets de toutes les rédactions. Comme le disait Anne-Sophie, ça a été trop longtemps cantonné à des rubriques. Et donc, du coup, à des journalistes qui étaient intéressés par ces questions, des journalistes qui, d'ailleurs, pouvaient être parfois moqués pour s'intéresser à ces questions. Alors qu'en fait, il faut pas une rubrique planète, une rubrique environnement. Il faut que dans les rubriques politiques, on parle des enjeux écologiques. Et en plus, l'urgence écologique n'est pas En fait, il ne faut pas la penser en une seule chose. Ça se décline partout. Ça se décline à la fois avec des enjeux vraiment de climat, mais ça se décline avec des enjeux de biodiversité, avec des enjeux de social, puisque comme on le disait, la transition écologique que l'on doit tous faire, elle doit être accompagnée. Donc ça concerne tellement de sujets que tous les journalistes qui s'occupent de ces sujets, ils doivent pouvoir être formés et ils doivent pouvoir avoir cette boussole, cette charte qui a été faite. Elle a été faite dans ce but. Là, comme le disait Anne-Sophie, le but c'est pas d'être moralisateur, c'est vraiment d'aiguiller les journalistes, et éventuellement aussi de donner un prétexte à nos consoeurs et confrères journalistes qui pourraient peut-être être intéressés par ces sujets, je sais pas, la direction, la rédaction en chef ne s'y intéresse pas. Le fait qu'il y ait cette charte, ça peut être aussi un prétexte de dire, ah tiens, voilà, il y a cette charte qui est sortie, ce serait peut-être bien qu'on s'intéresse à ces questions, et donc du coup de demander une formation, de se former. Et même pour nous, en tant que journalistes qui sont déjà spécialisés sur ces questions, c'est toujours intéressant de nous interroger sur notre façon de faire notre métier, de se redire voilà, quelques principes, de se dire il ne faut pas tomber toujours dans les mêmes images, il faut toujours continuer à faire preuve de pédagogie, parce que nous, en tant que médias indépendants sur l'écologie à Reporter, ça ne veut pas dire qu'on considère que tous nos lecteurs sont eux aussi spécialistes de ces questions, et c'est de continuer à ce que ce soit accessible au plus de lecteurs possible, et donc de continuer à faire preuve de pédagogie. Donc une charte pour redire des principes simples mais utiles, oui, c'était nécessaire. Et on voit que c'est nécessaire puisque, comme le citait Anne-Sophie, Radio France l'a fait, France TV l'a fait aussi. On voit qu'il y a vraiment un engouement pour ces questions-là.
Adrien Loin, je voyais opiner du chef en écoutant Justine.
Ah ben, j'opine souvent du chef. oui, non, ce qui est très intéressant sur tout ce que vous dites, ça fait, je crois, 3 ou 4 fois qu'on dit soit imaginaire, soit changement d'échelle depuis le début de l'émission, soit grille de lecture, pardon. J'ai noté changement d'échelle, mais soit grille de lecture. Et justement, c'est ça. Peut-être que, c'est vrai que, bon, moi, je lis pas mal Reporter, mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même plutôt des gens déjà conscientisés. Enfin, surtout, n'hésitez pas à me couper, mais il me semble, en tout cas, que Reporter, c'est quand même des gens déjà conscientisés. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout de jugement dans ce que je vais dire. Un lecteur du Figaro, va peut-être moins aussi lire Reporter. Voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un vrai changement d'échelle avec ce que vient de faire Radio France, etc. Et du coup, Vous pouvez plus ne plus vous positionner. C'est ça aussi là, vraiment l'intérêt de cette charte. Je sais pas, faudrait demander à Anne-Sophie, mais quelle rédaction ne l'a pas signée? Ce serait intéressant. Alors c'est pas pour faire de la chasse, hein. C'est pas ça. C'est juste vraiment une réflexion intellectuelle. De dire, attendez, qui l'a signée? Qui, pourquoi pas? Sociologiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Nanana. Mais même ceux qui l'ont pas signée en tant que rédaction, et on peut très bien avoir des journalistes ou des éditorialistes qui l'ont signée et ne pas le signer en tant que rédaction pour diverses raisons. Mais nécessairement, ça interpelle. Et puis, ce que je me disais comme réflexion aussi, c'est vrai que sur RCF, ce qu'on aime bien faire, c'est... Je défends RCF, hein, c'est trop fou aussi. Ce qu'on aime bien faire, notamment dans cette émission, c'est d'aller dans le fond des choses. Et on a besoin à tout prix que énormément de gens le fassent, parce qu'on voit à quel point, en plus il y a énormément de débats dans la mouvance écologiste, dans les philosophies écologistes, on l'a encore entendu avec Ferris tout à l'heure, et donc on a besoin de mettre ces débats sur la table, de réfléchir, de questionner, d'avoir des articles, des contre-articles, etc. Et donc s'il y a que reporter, je caricature hein, volontairement, s'il y a que reporter qui le fait, c'est compliqué. Donc il y a vraiment un changement d'échelle face à cette dureté de prendre les sujets. Et puis le dernier point que je voulais aborder, c'était sur la question de conscientiser qu'on fait de l'écologie, en fait. Parce que déjà, c'est quoi l'écologie? On pourrait même repartir de ça. Pour moi, c'est tout ce qui fait du lien. Je parle de la définition de l'écologie intégrale du pape François, mais c'était une des questions qu'on avait sur Je pense donc j'agis. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, je me souviens, on avait fait quelque chose sur contre la peine de mort, en disant, oui, mais en fait, la peine de mort, c'est d'être contre la peine de mort, c'est de l'écologie, parce que c'est à partir justement d'une grille de lecture, d'une manière de voir le vivant, de voir notre vie en société, qu'on fait de l'écologie, du coup, c'est-à-dire de remettre du lien. Et d'avoir une dignité inaliénable de la personne humaine. Et donc, en fait, il faut pouvoir le conscientiser. Et je me souviens d'une discussion avec Anne-Claire Coudray qui me disait « Mais nous, on en fait plein d'écologie. » Je dis « Bah, ah bon ?» Et en fait, effectivement, ils en font plein. Mais est-ce que eux-mêmes ils ont conscience, donc là, en l'occurrence, à TF1, donc Anne-Sophie, je suis très heureux de l'apprendre, que TF1 va faire quelque chose, est-ce que eux-mêmes avaient nécessairement conscience, de faire de l'écologie? Voilà, ça, c'est super intéressant. Et apparemment, ils en ont conscience. Donc, il y a quelque chose qui bouge, c'est positif, c'est bien.
Bastos Hamadoun, vous, alors même si vous avez aussi, je crois, parfois une activité journalistique, mais vous êtes aussi de l'autre côté de la barrière, on pourrait dire, comme militante et puis comme sans doute consommatrice de médias. Comment vous réagissez à la publication de ce texte?
Alors moi, enfin, il y a deux choses. D'une part, je trouve ça vraiment très positif parce que c'est sûr que le traitement de l'écologie est vraiment catastrophique et je pense que c'était nécessaire d'avoir cette initiative-là et de l'avoir aussi de cette ampleur-là et qui puisse emporter autant de médias mainstream. Je trouve ça vraiment très positif.
Juste après, sur l'adjectif catastrophique, est-ce que vous pouvez expliciter en fait qu'est-ce qui va pas dans le traitement médiatique pour vous globalement?
Enfin, j'ai envie de revenir quand même sur ce petit moment qui, à mes yeux, est symbolique de la catastrophe. C'est pendant le débat pour les présidentielles, les questions qui ont été posées aux candidats, enfin, du coup, à Macron devenu président ensuite, mais qui montraient que, limite, c'était, je sais pas un sujet presque, en fait. Enfin, c'était une chose superficielle, des questions complètement superficielles. Je ne sais plus combien de secondes ça avait pris. Je crois que c'était une minute, comme ça, consacrée à l'écologie. Et vraiment, enfin, je dis, au moment où on prend une décision qui, là, va déterminer, les 5 ans à venir, le mandat à venir, etc., c'était une question pendant une minute à 2 candidats. Et pour moi, c'est vraiment symptomatique du fait que c'est catastrophique, ou même tout ce qu'on a évoqué là. Il n'y a presque pas eu de couverture médiatique sur le fait qu'on va dépasser les points de bascule. Tout ça montre que pour moi c'est catastrophique et c'était important de le faire et du coup je suis vraiment contente que des personnes aient fait cette initiative et aient lancé ce mouvement. Et moi justement par contre de l'autre côté, du côté plutôt militante et surtout plutôt militante du coup des quartiers populaires et des outre-mer, j'ai quand même trouvé aussi qu'il y avait quelques petits écueils, notamment le fait qu'on n'ait pas dans les différents principes indiqué qu'il fallait donner la parole à des acteurs différents, parce que enfin il y a le fait qu'on ne parle pas de l'écologie et il y a le fait que même les fois où on parle de l'écologie, on en parle de manière très scientifique, vraiment d'un point de vue seulement d'expert, et il y a ce côté un peu du vécu de juste une personne qui ne va pas lire le rapport d'IGEC et qui pourtant va subir les conséquences du changement climatique, typiquement là par exemple pour ce qui se passe en Guadeloupe, où il y a des inondations, une tempête qui vient d'arriver. C'est pas certain que les personnes sinistrées vont lire le rapport du GIEC. C'est pas tant un sujet, mais je pense qu'ils ont quand même du coup un regard particulier et important à apporter sur aussi le traitement de l'écologie. Et sur ce point-là, j'ai trouvé quand même que c'était dommage qu'il n'y ait pas cet aspect. Et l'autre chose aussi où je trouvais que c'était dommage qu'il n'y ait pas l'aspect, c'était le rapport des entreprises. Je ne vais pas faire ma petite gauchiste et dire que on a difficilement, enfin, il est difficilement possible de traiter d'écologie sans traiter des questions de redistribution, des questions de responsabilité des entreprises. Mais le fait qu'il n'y ait pas non plus un principe dédié justement à, OK, nous sommes des journalistes, nous influençons tous les jours des milliers et des millions de personnes, mais quel angle aussi on prend pour désigner, entre guillemets, les responsables? Et je vous disais aussi que ce côté-là qui ne parlait pas, enfin, bah, des entreprises, parce que c'est important de pointer les politiques, mais aussi les entreprises, c'était dommage que ça ne soit pas évoqué.
Bon, on a fait une émission il y a 15 jours, Malcœur, sur écologie et entreprise. Alors, on répond un peu à votre question. Ça ouvre là encore plein de points de débat, hein, et la question aussi qu'on pourrait évoquer du reproche qui nous est parfois fait à nous, journalistes, quand on parle d'écologie, de devenir des militants. Alors, peut-être d'un mot là-dessus, Anne-Sophie Novel, et puis après, il faut qu'on passe à la dernière partie de l'émission.
Oui, c'est en effet ce qui est reproché aux journalistes qui traitent de ce sujet depuis assez longtemps. Je pense que c'est lié à la manière dont la presse spécialisée sur ces sujets a dû se construire dès les années 70 dans un contexte de Trente Glorieuses, de développement de la société de consommation de masse, où forcément le discours allait à l'encontre de ce qu'on a voulu bien développer comme idée du confort et du bien-être et du bonheur. Aujourd'hui, hélas, c'est pas vraiment ça qui se passe. C'est des alertes scientifiques qui se répètent, ces points de bascule qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, les journalistes qui traitent de ces sujets savent exactement ce qui est en train de se passer et ne peuvent plus considérer que l'on peut... Voilà, on peut plus faire abstraction, en fait. C'est juste ça. Et donc, avec l'influence que l'on a, il est important de rappeler ces faits, de rappeler des ordres de grandeur, de faire de la vulgarisation, mais aussi de travailler sur les représentations. Quand cet été, des unes de journaux traitant de la canicule continuent de montrer des personnes en train de lésiner sur la plage ou manger des glaces, ce n'est plus possible. La canicule a d'autres impacts beaucoup plus malheureux et pour tout un tas d'autres sujets où, voilà, quand on parle des incendies, rappeler qu'il y a un contexte lié au changement climatique qui rend ça plus favorable est vraiment crucial. Donc en fait, c'est cette espèce de petite musique de fond qu'il est important de mettre en place pour que les gens puissent faire le lien et comprendre que c'est un sujet à la fois complexe et profondément politique, comme on disait tout à l'heure. Et donc, chacun doit pouvoir s'en emparer en étant conscient des enjeux et pouvant participer au choix de société en étant véritablement éclairé sur la question.
Allez, il nous reste moins de 10 minutes avant la fin de cette première partie d'émission. On va justement terminer par une rubrique que nous avons baptisée « Les oubliés de l'actu », Anne.
Ouais, on lui trouvera peut-être un autre nom, mais l'idée c'était de se dire une heure pour ausculter un mois d'actualité de l'écologie, c'est pas beaucoup. Donc on va faire complètement subjectif et je propose que chacun d'entre vous puisse en aller de 2 minutes nous parler d'un sujet qui lui semble important sur le mois écoulé. On commence par vous, soit Madoun, si vous voulez.
J'espère que ce ne serait pas moi. Oui, bien sûr. Alors moi, je voulais parler de la Guadeloupe, justement, et qui a été dévastée, du coup, par la tempête Fiona qui a eu lieu, en fait, pendant la nuit entre le vendredi 16 et le samedi 17 septembre. Il y a eu quelques articles sur le sujet, mais je trouve qu'il n'y a pas eu assez d'articles. Et même là, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, que ça soit Anne-Sophie ou enfin vraiment, c'est même là, il n'y a pas eu de rapprochement avec le changement climatique. C'était un peu limite, on a eu une énième tempête, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'après l'été qu'on a eu, c'était vraiment l'occasion aussi de montrer, enfin, je sais pas comment dire, mais comment un aussi petit espace, enfin, comment nos îles, du coup, peuvent continuer à fonctionner quand elles se font dévaster par des tempêtes comme ça, où il y a un mois, par exemple, là, il y a 60 000 personnes qui n'ont toujours pas accès à l'eau. Et je me suis dit, ce sujet est vraiment passé sous les radars, comme vous dites, et il n'est même pas parti, enfin, ça ne veut rien dire, mais je veux dire, il n'est même pas parti en tendance, par exemple, Twitter, de sujets qui étaient évoqués, alors que là, typiquement, l'ouragan continue sa petite route pour aller, par contre, aux États-Unis, et là, tout d'un coup, le sujet devient un sujet. Et je me dis, alors que c'est la France, alors que c'est les Outre-mer et qu'il y a des personnes qui, là, ne peuvent plus boire, je sais pas comment ne pas être choquée par ce sujet. Il y a 60 000 personnes qui n'ont plus accès à l'eau potable en France. Ce n'est pas un sujet. Il n'a pas fait actualité. Il n'a même pas été évoqué. Du coup, que ça soit sous le point de vue de la solidarité, que ça soit sous le point de vue de l'adaptation, parce que c'est aussi regarder comment, quand déjà c'est un territoire très pauvre, et quelle est la responsabilité de l'État face justement à ces territoires qui partent de très loin pour s'adapter à énormément de tempêtes et d'aléas climatiques dont ils n'ont même pas les moyens pour s'y adapter. Quelle est la responsabilité de l'État face à ça? Il n'y a aucun débat sur le sujet et je trouve ça vraiment dommage qu'on en entende parler, si ce n'est pour les personnes qui souffrent actuellement ou pour la personne qui est morte pendant cet événement.
Merci de nous en parler ce matin et avec autant de passion. Adrien Loindre, votre sujet à vous.
C'est excessivement juste ce que vous venez de dire, merci beaucoup. Et du coup, excusez-moi, ça va me faire, promis je tiens mes deux minutes, ça va me faire rebondir sur un autre point. J'avais vu quelques articles passer, mais pareil, sur une famine au Soudan, qui est en partie sur les questions climatiques, hein, forcément. Ça c'est pareil, mais je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire ben, on n'en parle pas parce que c'est le Soudan. Ça serait je ne sais pas où, ça serait beaucoup plus proche de nous, ça serait aux États-Unis effectivement, on en parlerait, on n'en parle pas parce que c'est au Soudan tout simplement. Mais bon, pour rester dans la logique des bonnes nouvelles et sur cette question de l'eau que vous abordiez, alors ça vaut ce que ça vaut, mais le Parlement européen a aussi fait cette décision, c'est pas vraiment une décision, mais qui va peut-être commencer à dire que l'eau est un droit commun. T'as bien commun, pardon, et que ça pose la question de la constitutionnalisation, c'est dur à lire, de l'eau comme bien commun, et ça c'est une très 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 bonne nouvelle, parce que c'est vraiment quelque chose, quand on voit que dans certains pays, des grandes multinationales comme Nestlé veulent la privatiser, c'est quand même très positif. Et puis un autre point aussi que j'avais vu hier, bon alors c'est pareil, c'est la moindre des choses, c'est pas incroyable, etc., mais c'est quand même une bonne nouvelle, puisqu'il y a un article dans Le Monde qui explique que la France va arrêter fin 2022 son soutien au projet d'exploitation des énergies fossiles. C'était en branle à la COP26, ça progresse désormais. Donc voilà, c'était aussi un petit message pour dire, encore le même message un petit peu que tout à l'heure, mais la COP26, c'est pas exceptionnel, c'est pas incroyable, on attendrait beaucoup plus, moi le premier, je suis d'une déception à chaque COP, mais il y a quand même des petites choses qui se font, et qui sont positives, et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que s'engager en politique, c'est le message qu'on porte souvent, je pense, donc j'ai dit, s'engager en politique, c'est, ça sert à quelque chose. Voilà, merci.
Et c'était pas que dans Le Monde, hein, parce que c'est une annonce du gouvernement hier, je crois qu'il y a eu un article de reporter d'ailleurs, Justine Guiton-Bussion. Alors vous, votre sujet, quel est-il ?
On a parlé de nouvelles pas très très réjouissantes aujourd'hui, et c'est nécessaire, il faut qu'on le fasse, mais j'avais envie de vous redonner un petit peu de baume au cœur aussi, parce que on peut pas être déprimé tout le temps, donc je voulais vous parler des luttes écologistes qui ont été victorieuses ce mois-ci. Alors pour commencer, il y a eu la relaxe des défenseurs des jardins d'Aubervilliers. Je vous refais l'histoire si vous n'aviez pas suivi cette affaire
à Aubervilliers.
Je fais vite. À Aubervilliers, donc en région parisienne, la ville voulait construire un solarium, ce qui impliquait la destruction de 19 parcelles de jardins ouvriers. Donc au mois de février, des militants avaient stoppé momentanément les travaux en s'enchaînant à la centrale à béton. 8 d'entre eux ont été poursuivis pour opposition à l'exécution de travaux publics. Mais comme je vous le disais, ils ont donc été innocentés le 16 septembre. Leur avocate a montré au juge que cette action était nécessaire et proportionnée, je cite, « face au danger de la destruction d'un lieu à la fois producteur de nourriture, facteur de lien social et oasis en temps de canicule. » Et sur le même thème, à Rouen, des jardins, là encore, étaient menacés par la construction d'un projet de résidence de luxe. Mais ils ont été sauvés du béton grâce à la mobilisation, encore, d'un collectif. Le 17 septembre, ils ont manifesté pour célébrer leur victoire. Et je vous cite ce qu'a dit ce jour-là Lilo, une des militantes. « Même dans des situations qui paraissent désespérées, on peut gagner. » Voilà, j'espérais que ça vous redonne un peu de baume au cœur.
Merci beaucoup, Anne-Sophie Novel.
Alors, moi, je voulais parler du loup. c'est pas un sujet nouveau, mais il vient de manière régulière dans l'actualité. J'ai cru entendre tout à l'heure qu'en Lozère, hier, il y a eu des manifestations d'éleveurs qui demandent l'autorisation de la chasse au loup. Et une louve a encore été tuée récemment, là, le 20 septembre, dans le Haut-Doubs, à Longeville-Mont-d'Or. Donc, ce sont des tirs de défense qui sont pratiqués lorsque des troupeaux sont menacés et attaqués. Aujourd'hui, on sait qu'en France, le loup est revenu. Hein, il y a un développement favorable avec plus d'un millier d'individus sur le territoire. Il y a cette question de l'agression des troupeaux, et j'ai l'impression que on s'enferme dans une logique où il y a toujours les pro-loups ou les anti-loups qui s'opposent, alors que le loup n'est pas qu'un simple prédateur, il a une valeur écologique, il a un rôle dans l'équilibre de l'écosystème et contribue à la régulation des ongulés sauvages. Et donc, je crois que ça serait important aujourd'hui qu'on entende en fait la nécessité d'avoir des dialogues ouverts entre tous les acteurs concernés pour sortir de cette autorisation à abattre des individus et essayer de sortir par le haut sur cette problématique, parce qu'on a une vision encore très anthropocentrée et dominatrice de la nature, et je crois que ça serait important que là aussi on change les représentations.
Melchior, vous faites bientôt une émission sur le loup.
Oui, ben la semaine prochaine.
J'espère que ce dialogue ouvert y existera.
On parlera de la chasse dans la première partie de Je pense donc j'agis. Ça, c'est un vrai sujet. Et dans la seconde partie, justement, du loup.
Voilà. Ça sera quel jour ?
Jeudi prochain. Donc, je n'ai pas la date encore. Si, le 6 octobre. Voilà.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus inaugurer cette formule décryptage de l'actualité de l'écologie. On vous retrouvera, si tout va bien, dans 2 mois. Et c'est une autre équipe qu'on retrouvera le mois prochain.
Merci Anne-Carléo.
Oui. Ben merci à vous.
Vous voulez qu'ils disent quelque chose ?
Non, on continue avec vous, bien sûr, sur un sujet d'actualité, l'éducation à l'écologie.
L'éducation
on est encore dans la rentrée.
L'écologie, voilà, un vrai sujet. On va avoir Ferris Barkat qui va revenir justement pour vous parler d'un atelier climat qu'il a pu organiser et animer dans une école à côté de Strasbourg. Et puis également Florent Rollin qui va nous rejoindre, le directeur de Graines Île-de-France. C'est un réseau régional des acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable, ce qu'on appelle également EEDD. On en parle dans un instant, toujours avec vos appels au 04 72 38 20 23 et vos messages par mail à direct@rcf.fr. A tout de suite.